Bon, merci Mario de venir au Tapage littéraire, merci d'être ici. Mario Alonso, il est de la région, c'est de Lille exactement ?
Oui, Lille.
Et donc on le connaît surtout, enfin moi je t'avais repéré avec, d'ailleurs j'ai manqué à mon devoir. Avec Watergang, qui était sorti il y a quelques années, il est sorti maintenant chez Au Tripode en poche. Est-ce que vous connaissez ? Alors, on l'avait beaucoup repéré pour cette petite pépite dont on va parler aussi en vitesse, mais voilà, il y a quand même des choses qui se rejoignent avec Femmes de cabane, moi je trouve. Et puis il y a aussi un joli petit texte d'une maison d'édition qui est aussi du coin, qui s'appelle Les Venterniers, qui fait de la poésie. Les petits livres sont reliés à la main. Et ton ouvrage s'appelle Les gens qui meurent. Voilà, on a les gens qui plantent, on a les gens qui osent. Il y a toute une collection. Et le tout dernier, un des derniers, c'est un texte de Mario Alonso, donc c'est de la poésie. Donc tu es poète, tu es romancier, tu animes des ateliers d'écriture. Il me semble que tu es bibliothécaire. Voilà. Et ici, tu écris dans une collection chez Cours Toujours qui s'appelle donc Femmes de cabane. Et cette collection, elle a comme particularité de demander à des auteurs d'écrire sur un objet ou quelque chose qui leur plaît. Au départ, c'était quelque chose du Nord, toujours un objet du Nord. Donc, on a eu la gaufre, on a eu la voisingue. Fanny Carello était venue pour discuter. Là, c'était pas un objet, c'était sur les terris, tout simplement. Vous les retrouverez d'ailleurs là-bas chez l'éditeur, sur le stand. Et puis là, tu as eu envie, je présente aussi Dominique qui est son éditrice et qui est là, et qui a eu envie d'élargir un petit peu la collection. La thématique, et puis de parler des cabanes. Et là, on n'est plus du tout dans la région, parce que ce roman, alors c'est jamais cité, il n'y a jamais d'endroit précis, mais on se doute que c'est sur l'île d'Oléron. Voilà, donc là, on vire à l'ouest. Et pourquoi avoir choisi la cabane ? Est-ce que c'est une demande de l'éditrice, ou c'est toi qui avais envie de parler de cet endroit ?
Bah non, j'avais carte blanche, donc c'est moi qui lui ai proposé le sujet. J'avais travaillé déjà sur ce thème et sur ce paysage. Je pars souvent du paysage et je connais très très bien cet endroit. Et je suis très attaché aux lieux, aux lumières. Et, tu ne l'as pas cité, mais j'ai été photographe longtemps. Donc c'est ma première formation, je pense que j'en ai gardé quelque chose. Et je démarre avant de penser au personnage. Je pense d'abord au cadre et à l'environnement et au climat, à la palette de couleurs que je vais utiliser et au rythme. Je suis plutôt dans cette dynamique-là avant de commencer une histoire, en fait. Oui, oui, voilà. Et par contre, Dominique m'avait dit, j'ai beaucoup aimé Watergang, si jamais tu as quelque chose à me proposer, je suis prêt à lire un texte. Et elle m'avait fait comprendre que dans sa collection, elle voulait opérer un petit virage et sortir de la région, et peut-être sortir aussi de l'objet, qui est, souvent c'était des objets plutôt petits, et voulait élargir un peu la collection. Et donc j'avais ça en tête, et un début de texte que j'avais commencé, que j'ai terminé, que je lui ai proposé, et puis ça a tout de suite matché. Voilà.
Alors pour la petite histoire, c'est un tout petit texte, hein, il y a une centaine de pages. Entre les pêcheurs du coin et les producteurs d'huîtres, on va suivre l'histoire d'une femme un peu qui élève seule son enfant et qui se bat en silence et qui va, pour joindre les deux bouts, travailler chez des producteurs d'huîtres. Enfin, elle va devoir donc faire du travail un peu à la chaîne, répétitif, fatigant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le contraste, et là on retrouve ta patte de personnes qui voient un peu les couleurs et les paysages. On va avoir la cabane des heures grises, c'est dans celle-ci qu'elle va travailler tous les jours. Et puis on va avoir une autre cabane, parce que son amour du tissu, de la dentelle, a fait qu'elle était couturière avant de devoir travailler là-bas. Et donc quand elle va encore dans cette cabane pour, au départ, parce qu'elle faisait des robes de mariée et puis elle n'y va presque plus, mais des fois elle y retourne. Et tout de suite, c'est des phrases, c'est de la poésie quand on parle de ces cabanes colorées. Il fait toujours bleu, elle y travaille le tissu. Voilà, il y a vraiment un contraste entre ces deux-là. On va la suivre. Et puis, chose étonnante dans cet endroit, il se trouve que la mère, qui d'habitude vient et repart, cette fois-ci a décidé de ne plus revenir. Alors, c'est une chose étrange. Pourquoi ça ?
J'ai commencé à lire Buzzati très jeune et j'ai gardé à l'esprit ce réalisme qui, tout d'un coup, bascule avec pas grand-chose et on se retrouve dans un autre univers. J'étais très marqué par toutes ces petites nouvelles que j'avais lues et c'est quelque chose que je garde en moi. Et par la suite, j'ai eu une formation aussi très orientée sur le surréalisme belge. Bon, voilà, les univers de ce type-là me plaisent beaucoup. Et pour moi, c'était un beau ressort. Dès la première ligne, je le dis en fait, hein, c'est la première ligne du livre, la mère s'est retirée, elle ne revient pas. Je crois que c'est textuellement la première phrase. Et ça me créait tout de suite l'opportunité de mettre en place, en scène, une parenthèse dans laquelle va se dérouler toute mon histoire et dans laquelle je vais pouvoir planter mon décor.
Alors, tout comme avant, si vous avez assisté à la rencontre précédente, La Petite Bonne, c'était de la prose libre. Il faut s'habituer à cet exercice et à cette lecture. Étonnamment, on n'a pas fait exprès, mais dans Femme de cabane, on est dans le même type d'écriture. Il y a certains libraires qui parlent de Femme de cabane comme un roman-poème. Moi, je lui disais tout à l'heure que quand j'avais envie de repérer des petits passages pour que tu les lises, en fait, j'avais envie de lire tout le livre parce que c'est tellement beau et tellement... C'est un livre à lire à voix haute, pour moi en tout cas, je trouve. Et pourquoi utiliser la poésie pour dire la difficulté du travail? Parce que c'est comme dans La Petite Bonne aussi, elle dit la dureté de la chose, la dureté de son travail, et là, c'est pareil. Et je vais te faire lire après un petit passage.
Tout travail pénible est en relation avec un rythme. Et donc, ce rythme-là, il fallait que je l'aie tout de suite. Et dès que je l'ai eu, c'était celui que j'allais garder jusqu'à la fin. Et donc, cette forme s'est imposée à moi. Et très vite, j'y ai vu graphiquement, comme une colonne qui représentait symboliquement le paysage dans lequel on était, à savoir un chenal donc, qui vient de la mer et qui entre dans les terres et qui va venir desservir les différents bassins d'huîtres. Et aussi, c'est au bord de ce canal, de ce chenal que se trouvent les cabanes où travaillent les uns et les autres. Donc finalement, le texte, ça permettait d'entrer dans mon paysage. Et puis au niveau du rythme que je voulais imposer, assez soutenu, qui devait correspondre à la fois au rythme des marées, mais surtout au rythme des tris, c'était parfait. Et puis au bout de quelques pages, je me suis rendu compte que j'allais aller au bout comme ça. Et que j'allais être emporté moi-même par une nécessité d'écrire d'une certaine façon et que, après moi, le lecteur aurait, comme tu l'as dit, finalement, tu as été pris dans mes filets. C'est-à-dire que quand on commence, on n'est censé pas jamais pouvoir le lâcher. On est obligé d'aller jusqu'au bout, un peu comme emporté par le courant. Un courant, d'ailleurs, qu'on retrouve sur la couverture ici. C'est vrai qu'il y a des similitudes. J'aime beaucoup les univers aquatiques. Ouais.
Alors, tu peux lire un passage ? Le passage, c'est celui de la page 18, tu peux commencer sur celui-ci. Elle postule pour travailler là-bas, et donc c'est un échange avec son employeur.
Tu faisais quoi avant ? Qu'est-ce que ça fait ? Si je te le dis, tu ne m'embaucheras pas. Dis toujours, on verra. J'étais couturière. Et pourquoi tu es là ? Parce que ma petite a la dalle. Tu sais où tu mets les pieds ? Les pieds, je les ai déjà dedans. J'ai besoin de ce boulot, je ne te décevrai pas. Ce n'est pas moi que tu risques de décevoir. Les couturières ne sont pas des mauviettes, tu sais. Je ne demande qu'à te croire, ma belle. C'est juste que je ne peux pas me tromper. J'ai besoin de quelqu'un de fiable, tu comprends ? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce que tu vois. Dis-moi si tu ne vois pas quelqu'un de fiable. Il a soutenu mon regard, puis c'était bon. Il a dit, je t'attends demain aux cabanes. Je te présenterai les filles. Je n'ai rien dit d'autre que merci. Je n'ai pas souri, je n'ai pas sauté en l'air. Je savais que j'allais morfler. On s'est serré la main. Le jour d'après, les filles m'ont aussi serré la main. Ici, on fait comme ça. Les mains, c'est ce qu'on a de plus précieux après les yeux. Le premier jour, j'ai dégueulé. Maintenant, je ne déjeune plus. Au début, je ne sortais pas de la cabane. Je n'en avais pas la force. On ne me proposait plus de café. Je préparais mon tabac et vomissais. Maintenant, je sors, je vais prendre l'air, je mange une huître et j'avale la fumée. Parfois, je pleure, mais toujours dehors. Hier, je n'ai pas eu le temps. J'étais pressé. J'ai même réussi à me poser dessus. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Tous les jours, toutes les semaines, 1, 2, 3, qui font 6, et 6, 12, 2 fois 24 au total. Et on recommence. 1, 2, 3, couvercle, cerclage, étiquette, on envoie. Le semi est un paquebot. Il y a un bal quelque part, on l'attend. Les bourriches sont des cages à oiseaux, mais quand les oiseaux sifflent dans ta tête, c'est que tu es devenue folle. Alors tu te frappes, alors des coups secs, 1, 2, 3, des coups rapprochés, puis ça passe. Comme les huîtres, tu abdiques. 1, 2, 3, les numéros s'ajoutent aux numéros, et voilà, 1 et 2 et 3, et nous sommes les femmes de cabane, pas loin les unes des autres. Comme des grappes de 8, nous sommes un village de femmes en cabane. Sans regard, nous nous faisons face, 1, 2, 3, haut les mains, 1, 2, 3 sur nos pieds. Le soir, nos gants ont la peau grasse, on les pend comme du poisson frais.
Voilà, moi je voulais surtout que vous puissiez voir un peu le début. Il y a d'autres passages qu'on lira après pour la beauté des paysages que tu décris ou son amour des tissus. Vous avez certainement dû lire, et je pense que tu l'as lu aussi, le bouquin de Joseph Pontus à la ligne. Lui, il a écrit aussi un roman en prose et il a surtout vécu ce qu'il écrit, c'est-à-dire qu'il a travaillé dans les conserveries de poissons, dans les abattoirs, et il en fait un roman. Il en a fait un roman écrit en vers libre. Est-ce que toi, tu es allé jusque là-bas pour travailler avec eux ou du moins faire une petite recherche, enquêter ?
Alors, c'est un endroit où je suis allé souvent, où j'ai des amis, et j'ai une amie qui a fait ce métier et qui est la première personne qui m'a parlé de ce métier. Je ne connaissais même pas le terme de femme de cabane. Donc quand elle m'a raconté son expérience personnelle, j'étais à la fois frappé et puis très intéressé. Je lui ai tout de suite dit que j'avais envie d'écrire sur ce sujet-là et si elle acceptait que je me serve un peu de son histoire pour que j'invente une fiction. Et si elle acceptait surtout que je lui envoie régulièrement mes feuillets pour qu'elle me fasse des retours et qu'elle me dise si c'est crédible. Alors, bien sûr, c'est un endroit que je connais, donc j'avais pas mal d'éléments, j'avais pas mal de documentation déjà dans ma tête, mais j'en ai fait d'autres. Et j'avais surtout mon amie qui était là pour me guider un peu. Et puis, elle m'a permis aussi d'entrer en contact avec des personnes du métier. Et j'ai fait des sorties, effectivement, sur l'île d'Oléron. Ouais. Au niveau du canal d'Ors, je suis allé... en face de Marraine d'Oléron, jusque sous le pont, voilà, et ça m'a permis d'avoir une bonne idée de ce que ça représentait une journée, d'être vraiment dans les éléments et d'avoir presque en moi ces lumières, ces forces qui sont très présentes et qui vous changent. Et comme ce thème de la transformation est au centre du livre, puisque c'est une femme qui... va devoir devenir une autre femme, accompagnant cela par sa fille qui elle-même se trouve comme dans un effet de poupée russe, en transformation aussi, mais elle, de jeune fille à jeune garçon. Donc ensemble, elles sont dans ce devenir et ça me paraissait très cohérent tout ça et très intéressant. Et de placer tout ça dans cette parenthèse d'inactivité à cause de la mère qui s'est fait la malle quoi, et qui n'y revient pas. Qui reviendra et là on verra si les choses ont changé ou pas.
Oui, j'allais y venir à sa fille parce que c'est un peu. On parlait tout à l'heure des deux cabanes différentes et la force qu'elle trouve tous les jours pour se lever, pour aller travailler, elle la trouve à la fois dans cette cabane colorée, cette cabane faite de tissus. Il y a des très très jolis passages. Elle est seule avec sa dentelle et ses coupons. Vague, vent, wax, calibre, collecteur, nos univers ont leur langage. Ma fille est un poisson. Et sa deuxième force. À part cette cabane de tissu, c'est sa fille. Et il y a de très beaux passages aussi sur la transformation, comme tu disais, puisque sa fille finalement décide qu'elle sera son fils et elle lui demande donc elle lui dit qu'elle changera de prénom et qu'elle l'appelle maintenant sous un autre prénom. Et il y a toute cette beauté, cette relation qu'elle va entretenir avec sa fille qui vont lui donner la force finalement de survivre à tout ça et peut-être justement de passer à autre chose. Je vais te faire lire un autre passage, si tu veux bien.
Avec mon fils, c'est toujours simple. Quand ça ne l'est pas, tu risques ta vie. Il connaît la mer mieux que personne. Nous allons faire de la cabane un studio. Un drap blanc fera l'affaire pour les photos. Les modèles poseront devant. Les copains nous aideront. Mon fils se maquille. Il se passe une robe sans se faire prier. Elle a des hanches magnifiques. Je lui dis, il souffle, il n'aime pas. Il n'y a presque rien à reprendre, c'est une robe basique, sans dentelle, elle n'a rien de superflu. Je le regarde et lui tourne autour, je recule et sors de la lumière. Le soir tombe enfin sur ses épaules nues, il est belle. La cabane se remplit de lucioles venues des marais. Nous passons du temps à faire des tests, nous définissons notre ligne, nous cernons notre univers, la musique enveloppe nos idées. Il y a les cheveux longs, blonds, foncés, ses traits sont fins et bruns, le bas du dos creusé par les vagues, il n'est pas très grand mais il se tient droit, il a les fesses musclées, il ne s'effarouche pas, il me laisse faire. Nous nous passons une cigarette et réfléchissons, attention à la soie avec le bout incandescent quand même. Un jour, la mer n'a fait que descendre, et elle n'a plus eu l'intention de remonter. Je peux peut-être préciser une chose, c'est que j'ai eu à la fois une personne qui m'a pas mal inspiré, mais j'ai dédié le livre à la fin à quatre personnes, et ce sont ces quatre femmes que je connais, qui vivent toutes les quatre sur l'île de Léron, qui m'ont permis de dresser un portrait unique. Et donc cette histoire de jeune fille qui change, qui veut changer, ça tombe pas du ciel, c'est aussi une personne que je connais qui a eu à vivre ça, et donc elle avait une jeune fille que j'ai connue très 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 jeune, presque à sa naissance, et à l'adolescence elle a voulu qu'on l'appelle Hugo, et puis elle a voulu devenir quelqu'un d'autre, et donc j'avais aussi ça à l'esprit, et c'était très symptomatique de ces femmes que j'ai rencontrées sur l'île, qui est une île à part avec des personnes à part, et je trouvais intéressant d'utiliser ces différentes facettes pour donner beaucoup de matière en fait à la fiction et emporter le récit dans une densité, une richesse qui était pour moi auteur plus intéressante et qui me permettait de chercher des astuces au niveau linguistique. Vous l'avez peut-être entendu là dans mon extrait ou dans la même phrase, je dis il, elle. En fait, toutes les deux sont en train de changer, c'est pour ça qu'elles n'ont pas de nom encore, ni l'une ni l'autre. Et on est dans la décision, mais pas encore dans. Ils ne sont pas encore arrivés à devenir ce qu'elles veulent. Donc voilà, cet entre-deux m'intéressait beaucoup. Et il a fallu que je trouve une petite astuce pour pouvoir faire passer ça. Et les décisions se prennent, mais avant que les choses se ressentent vraiment, il faut un peu de temps. Et donc je voulais me situer avec ce texte dans cet entre-deux-là. Et c'était la manière la plus simple que j'ai trouvée pour faire sentir ce changement, pour qu'on y soit vraiment impliqués, nous aussi, en tant que lecteurs.
Ça allait être ma prochaine question, ce jeu que tu utilises toujours entre le « il » et le « elle », et tu dis à un moment, quand elle était petite, « mon fils ne mangeait rien ». Je vais vous lire le petit passage, justement, parce qu'il y a plein de jeux de langue comme ça qui sont intéressants, et on voit bien l'ambiguïté un petit peu au début. « Quand elle était petite, mon fils ne mangeait rien. Elle n'aimait pas ouvrir la bouche, j'en étais malade. J'avais peur qu'il meure la nuit. » Je la surveillais. Elle a mangé tard. Il était plus grand. D'abord du chocolat, puis des pétales de blé. Mon fils n'a pas modifié son nom. Il s'en est choisi un autre. Quelque chose de classique, ancien, court et sans ambiguïté. Aucun rapport avec la mode. Une référence trouvée dans la Bible, histoire de remettre les pendules à l'heure. Nous buvons beaucoup depuis que la mère est partie. J'ai cessé de me plaindre. Mon fils m'a converti. Je penche vers la joie. Ça me réussit. Alors, on cite aucun nom de lieu, aucun nom, aucun prénom aussi. L'île n'est jamais citée. Est-ce que c'est justement plus pour se concentrer sur ces paysages que tu décris, sur les sensations qu'on ressent quand elle ouvre une huître, quand on a les embruns, quand on a, enfin, tout est fait pour qu'on ressente vraiment les choses en le lisant. Est-ce que c'est pour ça que tu n'utilises aucun, tu ne déconcentres pas trop en fait?
C'est exactement ça. Quand on n'a pas de référence, on est obligé de s'attacher au peu qu'on a. Et comme je m'attache à des petits détails, je suis beaucoup dans l'ellipse. C'est un roman très court. Les phrases sont aussi très courtes. Elles font quelquefois une demi-page. Donc il faut aller à l'essentiel. Et il faut qu'entre les mots, entre les images, vous puissiez reconstruire par vous-même tout ce qui manque. Et donc, oui, le fait de ne pas donner de référence, que ce soit géographique ou pour les personnes, ça permet de se concentrer, de rester dans ce rythme, dans ce tempo, et de continuer dans ce flux que je voulais du début à la fin, comme si on avait parcouru tout le chenal presque sans respirer, quoi.
Ce qui était un peu différent avec Watergang, où tu mettais, où il y a énormément de personnages quand même dedans, on en reparlera un petit peu juste pour terminer. Et dans le roman Femme de cabane, il y a forcément aussi l'océan, il y a l'eau qui revient aussi tout le temps, comme dans Watergang. Et je voulais vous citer juste un passage de Watergang, justement. C'est Watergang ou Watergang ? Watergang. Dans Watergang, il y a des canaux partout, il y a une palette de couleurs qui est folle. Il y a du vert, il y a des polders. On ressent ça énormément dans ce bouquin. Et ça fait écho à celui-ci, ce petit passage. Celui qui est écrit dans Watergang s'appelle Paul. Il y a des paysages qui vous écrasent et des paysages qui vous fortifient. Paul retrouve ici toutes ses forces, à l'image du Grand Canal. Il trouvera un jour ici l'élan qui lui manque pour traverser la mer. Il emportera avec lui les polders, car le Watergang sera toujours son allié. Voilà, donc ici la mer est partie, elle revient, mais c'est un élément qui semble un peu dans tous tes bouquins, en fait. Alors peut-être pas dans Chez les Vingt-et-Unièmes, mais c'est important.
Oui, je pense que c'est une obsession, comme j'en ai d'autres, mais c'est aussi pour moi, sans doute inconsciemment, la traduction d'un élan vital qui est nécessaire dans tout ce que je fais, qui me correspond, qui peut-être même me définit, ou qui définit en tout cas beaucoup de mes personnages, qui sont des gens qui peuvent rencontrer des difficultés, mais qu'on sent portés par une force inhabituelle, et on sait qu'ils atteindront leur but. Ils ont une force qui les différencie des autres. Que ce soit pour Paul, que ce soit pour cette femme, on sent d'emblée qu'on a affaire à des gens qui vont réussir à traverser quelque chose, ce qu'ils ont à traverser. Ici, autant que c'était une forme de colonne, là c'est plutôt une mosaïque. D'ailleurs, on a dit de ce roman que c'est un roman choral, ce qui est vrai. Et l'image représente une vague pointilliste. Et donc c'est très à l'image du texte qui est fait de petits morceaux, voilà, très pointilliste aussi, et qui est, voilà, en prenant du recul, en avançant dans le texte, l'image générale finit par se dessiner, et tous ces personnages qui sont venus parler, qui ne sont pas que des humains d'ailleurs, hein, puisque des éléments de la nature viennent parler, puis d'autres choses comme des concepts, comme une couleur, ou il y a même l'action qui vient parler. Voilà, tout ça reconstitue tout un monde. Là aussi, c'est une île, comme ici. Voilà, ce sont tout simplement mes obsessions. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus.
Est-ce que j'aime bien laisser... alors, on n'en a pas parlé avant, mais est-ce que tu veux lire un passage qui t'est... de Femme de cabane. Puis après, on parlera peut-être un petit peu des gens qui meurent des Vingt-et-Unièmes.
Bah, c'est un passage que je ne lis jamais, d'habitude. Voilà. C'est bien, ça change. Mon fils a rassemblé les robes, le matériel, rempli un camion, pris son ami par le bras, la cabane s'est vidée. Mon fils se retourne, je ne l'entends plus, il est trop loin, il remue les lèvres, je n'entends qu'un mot, celui qu'il a toujours conservé et qui m'a suivi dans tout ce que j'ai fait, maman. Ma machine à coudre, mes amants, la marée, mes enfants, tout a été bu. Nous voilà seuls, nous les femmes, nous, l'île. Nous nous agenouillons sur les abotos, chacune son monticule, chacune sa vigie, c'est à celle qui tiendra jusqu'à minuit. Le vent revient, pétri d'oxygène, il lave nos tourments, enfin s'achève l'hiver. Qu'adviennent d'autres colorations, le paysage bientôt sera dans nos bras. Fini la marénine et les eaux perdantes, à nous le printemps et les grandes orgues. La mer revient, elle ne cesse de revenir, au grondement fait place un battement, les béquilles vont plier, une à une. Une, deux, trois, nous sommes quelques-unes, trois, quatre, pas plus, quelques femmes seulement, les dernières à garder les cabanes. Nous voulons le vent et la mer, nous voulons ce qui vient, par-delà le chagrin, deux fois, trois fois, d'un bout à l'autre de l'estran. La mer, cette fois, vraiment, elle arrive, elle est là, pleine d'ailes et de nœuds coulants.
On peut peut-être, juste avant de vous laisser la parole, j'aime bien que vous puissiez poser quelques questions aussi, présenter la collection Les Vingt-et-Unièmes et Les gens qui meurent aussi, cet ouvrage.
Donc Élise Bettremieux, qui dirige cette maison, Les Vingt-et-Unièmes, je l'ai rencontrée lors d'une rencontre croisée qu'une libraire a organisée. Donc on ne se connaissait pas et on était tous les deux en discussion croisée avec cette libraire. Et j'ai découvert à ce moment-là cette collection qui m'a beaucoup plu, et Élise qui est aussi fort sympathique, et donc on a assez vite lié. Et sans lui dire à ce moment-là, j'ai nourri l'idée de travailler sur un sujet que j'allais lui donner. Et j'écris depuis longtemps des aphorismes à côté, qui sont publiés régulièrement en Belgique, parce que là-bas il y a un public pour ça, une tradition, toujours pareil, hein, qui vient beaucoup des surréalistes belges. Donc j'ai déjà publié 3 recueils en Belgique et j'avais une thématique qui m'intéressait, sur laquelle je travaillais, mais j'en étais au début. Et quand j'ai découvert cette collection, bah voilà, je suis allé au bout et je lui ai envoyé. Le défi était de parler de la mort de manière différente, de manière douce finalement, de manière acceptable. Et sachant en plus que cette collection s'adresse à la fois à un public jeune et adulte. Donc c'était un vrai défi pour moi, et comme j'aime les défis, voilà, ce qui paraît impossible, je suis le premier à me jeter, quoi. Je lui ai envoyé, et je n'ai pas eu de nouvelles pendant un an. Et puis un jour j'étais en vacances, donc j'étais à Saint-Jean-de-Luz, les pieds dans l'eau, et puis j'avais mon téléphone à la main, parce que je faisais des photos, je fais beaucoup de photos toujours. Et j'ai reçu un coup de fil, et puis elle me disait qu'elle publiait ce petit texte, et qu'elle avait trouvé une illustratrice au Portugal, à Lisbonne, qui est Laurent Penet, qui était prête à illustrer mon texte, et qu'elle lui avait envoyé déjà quelques maquettes, et qu'elle avait trouvé ça génial, et qu'il s'était décidé, que c'était parti. Et quand je suis rentré de vacances, les choses se sont finalisées. J'étais très heureux de découvrir le travail de Laura. Voilà. Et j'adore cette collection qui a beaucoup de succès en librairie. Donc, c'est des livres qui sont faits à la main, voilà, par des jeunes éditrices, qui sont numérotés. Donc, ça a valeur de petits livres, des livres d'art, quoi. Voilà.
Une très belle collection. Et en France, c'est vrai que la poésie, c'est quand même pas non plus des grandes ventes. Et étonnamment, en librairie, moi, dans mon camion, c'est un. Alors, en plus, c'est petit, c'est très bien. Ça passe très bien dans le camion, mais c'est vraiment une très chouette collection et ça marche. Donc je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas. Est-ce que vous avez des questions sur Femme de cabane? Si on avait eu le temps, je pense qu'on aurait lu tout le livre. Il faudrait faire une soirée lecture, mais c'est vraiment, ça serait vraiment bien.
C'est presque, oui. Non, mais en fait, avec une amie comédienne qui a été aussi séduite par le texte, on a monté un... Je ne sais pas comment appeler ça, mais enfin, c'est une lecture d'une heure, ça représente à peu près la moitié du roman. On a fait tout un travail de choix, de texte, pour que ce soit cohérent, mais on part du début à la fin, et on fait ça en duo. Elle fait la voix de la mère, et moi je fais toutes les voix annexes, surtout les voix pas sympas. Et on adore faire ça, et on l'a déjà fait 3-4 fois, on s'est produit dans des lieux culturels, ou en médiathèque, ou en librairie. Et actuellement, la comédienne est au Canada parce qu'elle travaille là-bas en ce moment, mais quand elle revient, on devrait continuer notre petite tournée. Donc, et puis tout récemment, là, j'ai appris qu'une compagnie bruxelloise s'était emparée du texte et allait l'adapter. Voilà. Une compagnie de théâtre dont j'ai oublié le nom. Mais bon, voilà, à suivre.
Uniquement de la lecture sans musique, quand il y a des lectures
C'est sans musique, même si on s'est posé la question. J'avais une autre amie qui était prête à jouer d'un instrument. Ça compliquait un peu les choses, et ça se fait beaucoup, et pas toujours bien. Et nous, on n'est pas sûr de savoir le faire bien, donc on n'a pas osé pour l'instant. Peut-être que dans un deuxième temps, quand on maîtrisera la chose... Voilà, je sais pas. Pour l'instant, on a mis ça de côté, mais ça peut.
En tout cas, merci beaucoup. Si vous voulez découvrir le livre, il est là, et les autres aussi, et puis faire dédicacer l'ouvrage. Mario est toujours là et sur le stand aussi. Voilà, merci beaucoup.